Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous. Depuis l'arrivée au pouvoir des conservateurs en Pologne il y a 2 ans, des milliers de personnes sont descendues dans les rues. Elles se sont opposées aux lois restreignant les droits des femmes ainsi qu'au projet de loi menaçant l'état de droit. Une mobilisation engagée mais qui reste malgré tout minoritaire. Aujourd'hui, la contestation trouve d'autres moyens d'expression. Les créateurs de mode commencent eux aussi à faire passer des messages dans leurs collections. Maya Szymanowska les a rencontrés à Varsovie.
Au cœur de Varsovie, la rue Mokotowska est le haut lieu de la mode polonaise. C'est le fief d'Ania Kuczyńska qui, après son petit déjeuner habituel au café du coin, court vers sa boutique située au 61 de la rue. Sur les cintres, les petites robes noires, des hauts noirs, des manteaux noirs. Le noir, sa marque de fabrique, a été choisi récemment par les Polonaises comme la couleur de leur mobilisation contre l'interdiction de l'avortement et les attaques contre leurs droits menées par les conservateurs. Ses inspirations, jusque-là littéraires ou géographiques, se sont fait plus engagées avec la mobilisation des femmes.
Regardez cette blouse, elle illustre mon engagement politique, mon envie d'expression pour la cause des femmes. Vous voyez cette inscription ? Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler. Aujourd'hui, il faut que l'on soit unis pour parler des mauvais traitements ou tout simplement défendre nos droits.
À quelques rues de là, dans un bel appartement tout en noir et blanc donnant sur le parc Łazienki, Michał Wojewski est avant tout graphiste, qui est devenu designer de mode depuis quelques années. Chacune de ses collections est comme un commentaire artistique de l'actualité. Pourtant, Michał n'a jamais pensé s'intéresser à la politique. Mais la floraison des boutiques de mode dites patriotiques, qui vendent des t-shirts aux couleurs du drapeau polonais et des inscriptions nationalistes qui utilisent l'emblème national l'aigle blanc, à tout bout de champ, l'en fait réagir. Sa collection actuelle s'appelle « Who are you ?»« Qui es-tu ?» Le début d'un poème pour enfants que chaque petit Polonais apprenait à l'école.
On ne sait plus qui nous sommes, car on vit à l'époque où les néo-nationalistes fleurissent, ainsi que les boutiques bizarres qui vendent ces vêtements patriotiques. Ils se sont emparés des symboles du pays, et ce n'est plus possible comme avant d'être fier et de porter un haut avec l'aigle blanc que faisait le designer Kupich. À l'époque, tout le monde voulait le porter. Aujourd'hui, on ne sait plus comment réagir, on ne sait plus si on aime cet aigle. C'est pour cela que dans ma nouvelle collection, l'aigle n'est plus blanc, mais noir.
Une grande provocation, sachant que les seuls aigles noirs dans l'imaginaire polonais sont ceux des voisins craints, voire détestés, allemands ou russes. Chacune des collections de Michał de sa marque Uegie a un thème politique ou de société. Il a déjà abordé l'exclusion pour pointer la politique du gouvernement de refuser les immigrés. La prochaine collection n'échappe pas à la règle.
La collection printemps-été de l'année prochaine est consacrée au racisme, car c'est un problème qui s'intensifie ces derniers temps. Et moi, je l'ai relié à la question totalement banale de la couleur de notre peau. La collection s'appelle Colors. Et c'est la première fois que j'utilise la couleur, car d'habitude, j'emploie juste le blanc et le noir. La couleur ne m'était pas utile. Cette fois, la couleur est celle des camouflages. La couleur de la peau est comme un camouflage. Nous disparaissons sous les teintes brunes et beiges. Je voulais que ce soit comme un manifeste de la rue. C'est pour cela que j'ai peint cette collection avec des bombes de couleurs des artistes du street art.
Impossible en effet d'échapper à la politique dans ce pays qui connaît depuis 2 ans un tel virage autoritaire. Les Polonais, qui pourtant votent peu, moins de 50% à la présidentielle et 35% aux législatives, manifestent de plus en plus volontiers leurs opinions en les exhibant sur leurs vêtements. Un début d'une prise de conscience politique passerait peut-être en Pologne par la mode.
Меня зовут Ксения Собчак. Мне 36 лет. И как любой другой гражданин России, я теперь имею право баллотироваться в президенты.
C'est dans une certaine indifférence que les Russes suivent la campagne de l'élection présidentielle qui aura lieu en mars prochain. Le scrutin semble en effet sans enjeu. Vladimir Poutine ne s'est pas encore déclaré, mais devrait sans surprise se porter candidat. Son principal opposant, Alexei Navalny, continue à faire campagne, même s'il ne sera manifestement pas autorisé à concourir. Et puis fin octobre, c'est une candidature originale qui a apporté un peu de sel à un climat politique amorphe, celle de la journaliste Ksenia Sobchak, 36 ans, portrait signé Étienne Bouche.
Son annonce a suscité une avalanche de sarcasme. Ksenia Sobchak est une figure bien connue des Russes. D'abord, elle est la fille du premier maire élu démocratiquement de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak, qui fut le mentor politique de Vladimir Poutine. Dans les années 2000, elle est l'une des incarnations de la jeunesse dorée de l'ère Poutine. Elle se fait connaître en tant que présentatrice d'une émission de télé-réalité particulièrement gratinée. Elle devient ensuite l'héroïne d'un autre programme qui en fait la Paris Hilton de Russie. La presse people raffole du personnage, on l'a vu poser dans la presse masculine, se trémousser aux côtés du rappeur Timati. Alors forcément, en présentant sa candidature à l'élection présidentielle, Ksenia Sobchak savait qu'on lui rappellerait avec gourmandise ses années débridées. En 2011, c'est un tournant. Elle prend part aux manifestations contre le pouvoir. Elle est accueillie avec des sifflets, mais peu à peu, elle parvient en partie à faire oublier son image. Elle se rapproche de l'opposition et prend la voie du journalisme. Elle collabore notamment avec la chaîne de télévision Dojd, indépendante du pouvoir. Elle dit vouloir fédérer tous les mécontents autour de sa candidature. « Ne votez pas pour moi, mais contre tous les autres », explique-t-elle. Sauf que sa personnalité reste largement impopulaire. Elle assure qu'elle se retirera si Alexei Navalny était finalement autorisé à concourir. Il n'empêche, Sobchak est accusée de diviser une opposition déjà mal en point. Mais surtout, elle ne parvient pas à dissiper l'idée selon laquelle sa démarche serait le fruit d'un marché conclu avec le Kremlin.
La chronique.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Laurent.
Faut-il, oui ou non, informer les jeunes Européens des effets concrets de la consommation de drogue, quitte à montrer des gens qui consomment des substances illicites sans pour autant inciter à la consommation? La question fait déjà polémique après l'ouverture d'une chaîne YouTube assez stupéfiante.
Oui, la chaîne porte bien son nom, Drugs Lab, le laboratoire de drogue. Elle est animée par trois jeunes néerlandais donc qui testent chacun à leur tour des drogues et racontent leurs sensations, leurs sentiments, leur état d'esprit, tandis que leurs camarades apportent des informations sur le produit, les risques et la prévention des accoutumances. Le tout dans une ambiance plutôt bon enfant, assez calme, mais qui n'édulcore pas non plus la réalité des effets, qu'ils soient agréables ou non. Je vous propose d'écouter un extrait de la vidéo où Nelly essaye le LSD en compagnie de son camarade Bastian.
Je ressens subitement de nombreux stimuli. Ma vision change aussi doucement. Allons faire un tour. C'est vraiment très beau. Je vois la couleur pourpre ressortir intensément. Les arbres ont pris une couleur fluo. J'ai l'impression d'être dans le film Le Roi Lion. C'est très agréable. Je sens le soleil doux et chaud. Et si je ferme les yeux, il fait tout à coup super chaud.
Alors voilà, certains trouveront le concept hallucinant, hein, c'est le cas de le dire. En tout cas, ces vidéos rencontrent un franc succès. 500 000 abonnés pour une chaîne lancée il y a à peine un an, en septembre 2016. Et des millions de vues déjà accumulées, notamment à l'étranger, dans plus de 1570 pays, dont la Grande-Bretagne. Ce qui choque certains hommes et femmes politiques britanniques qui accusent carrément le programme de glamouriser l'image des drogues illicites et donc en quelque sorte de pousser les jeunes à la consommation.
Alors ce qu'il faut préciser, c'est que cette initiative ne revient pas à des jeunes isolés. Cette chaîne YouTube est financée en partie par le gouvernement néerlandais lui-même.
Et oui, Laurent, c'est dire le fossé culturel qui distingue les politiques britanniques et néerlandaises en la matière. Le programme est rattaché à la télévision publique des Pays-Bas et donc en partie à ce titre financé par le ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sciences. La chaîne, de son côté, revendique la volonté de mettre justement en lumière la réalité de la consommation de ces drogues et ainsi d'apporter des renseignements tout simplement à une jeunesse forcément curieuse.
Oui, donc ne pas se cacher derrière son petit doigt et faire tomber un tabou.
Exactement, et surtout apporter des conseils simples aux jeunes qui expérimenteront de toute façon avec ou sans information. Dans la vidéo sur le LSD par exemple, les animateurs racontent que les effets de la drogue peuvent durer jusqu'à 12 heures, qu'il faut bien s'assurer de la provenance du produit et de sa force, de son intensité, quitte à le faire tester en laboratoire. Ils insistent aussi sur le fait qu'il faut toujours avoir avec soi quelqu'un de confiance qui reste sobre pendant le trip.
Ça vaut mieux en effet. Et est-ce que ces vidéos fonctionnent? Est-ce qu'elles atteignent leur but?
Alors, difficile à dire, hein, la chaîne YouTube, pour l'instant, n'a qu'une petite année d'existence, donc on n'a pas aujourd'hui assez de recul pour savoir si oui ou non ce genre de prévention est efficace. Reste que statistiquement, et c'est intéressant, les Pays-Bas ont un taux de décès directement lié à l'usage des drogues chez les jeunes, assez bas par rapport à d'autres pays européens, selon l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. 10 morts pour 1 million d'habitants, contre 44 morts en Grande-Bretagne, ou carrément 128 en Estonie, le record européen. Alors que la moyenne européenne se situe autour de 17 morts pour 1 million d'habitants en 2017. Alors, sans forcément prendre parti, on peut déjà considérer que la prévention a forcément au moins un tout petit peu de bon.
Merci Evmino et on vous retrouve encore une fois la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Alto 57 metri, di forma ellittica, il Colosseo poteva accogliere 70.000 spettatori. Nel corso dei secoli, ospitò spettacoli circensi e drammaturgici.
Et oui, c'est sans doute le monument le plus connu de Rome avec la basilique Saint-Pierre. Symbole de la puissance de l'Empire romain, le Colisée attire toujours plus de visiteurs. Après sa restauration qui a permis de le nettoyer de la pollution, l'amphithéâtre antique dévoile depuis le 1er novembre un de ses aspects inédits. Pour la première fois depuis 40 ans, ses derniers niveaux, où siégeait la plèbe, sont désormais ouverts au grand public. Olivier Bonnel en a fait l'ascension.
Pour découvrir un géant d'en haut, cela se mérite. Une première volée d'escalier en briques nous conduit au troisième niveau de l'amphithéâtre Flavien, l'autre nom du Colisée. Gabriella Gatto travaille à la protection des biens culturels de la ville de Rome.
Jusqu'ici, les groupes qui venaient visiter le Colisée s'arrêtaient là où nous sommes. Ils prenaient une photo et redescendaient vers l'arène.
Encore quelques efforts pour arriver au quatrième et cinquième niveau. Et c'est une vue inédite qui embrasse les entrailles du monument, icône de la ville éternelle, le plus grand amphithéâtre jamais construit sous l'Empire romain, bâti entre 70 et 80 après Jésus-Christ, pouvait rassembler jusqu'à 75 000 spectateurs, hurlant au rythme des combats de gladiateurs ou d'animaux sauvages. À presque 40 mètres de hauteur, le point de vue est stupéfiant sur la Rome antique alentour, les forums romains et la colline du Palatin, mais aussi plus loin, la Rome moderne et ses quartiers d'affaires. Et par temps dégagé, le regard s'en va même jusqu'à la mer. Michele est guide touristique.
Nous sommes ici au cinquième niveau de l'amphithéâtre Flavien et on a une vue sur l'arène comme l'avaient les plus pauvres, là où se trouvaient les femmes et les esclaves venus assister au spectacle. Ce que l'on voit aujourd'hui n'a rien à voir avec le passé, car à l'époque, l'arène était recouverte de sable et au-dessus de nous se trouvait le velarium, une immense tenture qui faisait de l'ombre aux spectateurs. C'est un point de vue complètement nouveau et ce qu'on voit là est merveilleux. C'est émouvant. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que de découvrir sous un jour nouveau un monument qui a 2000 ans.
Augusto Romolo Staccioli est l'un des historiens les plus célèbres de la Rome antique. Il est né et a grandi à l'ombre du Colisée que l'on peut presque apercevoir des fenêtres de son appartement.
Le Colisée est unique, il est tellement extraordinaire. L'amphithéâtre le plus important de l'Empire est bien sûr celui-ci, celui de Rome, et il est normal qu'il soit devenu le symbole de la ville. Peu de gens savent que le Colisée a été construit en partie là où il y avait un petit lac, une zone humide asséchée par Néron quand il a construit sa résidence. C'est important car c'est ce qui explique l'état actuel du monument avec cette partie sud effondrée alors que la façade nord est restée debout.
Comme le serait la tour Eiffel ou la statue de la liberté, le Colisée est devenu le symbole de Rome dans le monde entier. L'an dernier, près de 7 millions de visiteurs se sont pressés voir le monument, avec son revers inévitable, l'exploitation mercantile. Si les faux gladiateurs inquiétant le touriste ont été chassés des abords du monument, le Colisée reste néanmoins fragile. Il y a 3 ans, le président de l'AS Rome, le club de foot de la ville, a fait part de son rêve d'y organiser un jour un match de foot contre le FC Barcelone. Une hérésie pour notre historien.
Le Colisée doit rester un monument de Rome et des Romains. D'ailleurs, même si les étages supérieurs viennent de rouvrir, je n'irai pas, en signe de protestation. Car moi, au Colisée, je veux y aller gratuitement. Je ne comprends pas que les Romains doivent payer pour un monument qui est le leur après tout, qui est au cœur de leur patrimoine. Ils devraient s'y rendre librement et gratuitement.
Avec 5% d'augmentation chaque année, les visiteurs du Colisée sont de plus en plus nombreux. La prochaine étape de sa renaissance devrait être la reconstitution de l'arène, mais ce ne sera pas avant plusieurs années.
La double exposition qui vient de s'ouvrir à Berne en Suisse et à Bonn en Allemagne vaut autant pour les œuvres exposées que pour l'histoire qui y est rattachée. Il s'agit de la collection de Cornelius Gurlitt qui possédait plus de 1500 œuvres de maître, trésor hérité de son père, marchand d'art sous le Troisième Reich, et c'est bien là tout le problème, Déborah Berlioz.
Degas, Monet, Cézanne, autant de grands maîtres qui font partie de la tristement célèbre collection Gurlitt. L'affaire a commencé en 2012. Lors d'une descente de la douane, environ 1300 tableaux de maîtres sont découverts dans l'appartement munichois de Cornelius Gurlitt. 2 ans plus tard, le vieil homme décède et l'on retrouve alors plus de 200 autres toiles dans un autre appartement en Autriche. Dans son testament, Gurlitt lègue sa collection au musée d'art de Berne, mais c'est un don embarrassant. Ses œuvres, le vieil homme les a héritées de son père, marchand d'art sous le régime nazi. Beaucoup sont donc soupçonnés d'avoir été spoliés à leurs propriétaires juifs pendant la période national-socialiste. Révélée dans les médias en 2013, l'affaire déclenche une forte polémique sur la gestion par l'Allemagne après 1945 des œuvres dérobées pendant la guerre. Aujourd'hui encore, des musées ou des collectionneurs privés n'ont toujours pas établi l'origine de leurs fonds. Cette fois, le gouvernement allemand a donc réagi. Il a créé un groupe de travail, puis un centre de recherche sur les pertes de biens culturels doté de 3 millions d'euros. À ce jour, seules 6 œuvres sur les 1500 de la collection ont été identifiées comme étant le fruit de spoliation. 4 d'entre elles ont été restituées aux héritiers des propriétaires. L'exposition de Berne présente des œuvres considérées comme dégénérées sous le régime nazi. À Bonn, on se concentre davantage sur les spoliations et leurs conséquences. En exposant ces toiles, les organisateurs espèrent notamment accélérer les recherches sur les origines de la collection Gurlitt. Certains héritiers pourraient reconnaître un tableau et ainsi faire valoir leurs droits sur les œuvres confisquées.
À Vienne, en Autriche, c'est un lieu un peu spécial qu'une artiste a créé et investi pendant 2 semaines. Performance suivie par Céline Béal.
À l'arrêt du bus 5B, place Wallenstein, une curieuse excroissance a poussé. Un second abribus, complètement identique au premier, partage temporairement sa vitre transparente avec l'original. Il est équipé d'une petite bibliothèque, d'un sofa et d'un réchaud. Et l'artiste Barbara Ungepflegt y a élu domicile pour 2 semaines. Alors qu'il pleut des cordes, la jeune femme accueille des passants et leur offre le café. Le but de son installation, écourter l'attente du bus, distraire le quartier. Mais c'est aussi une réflexion sur notre rapport à l'intimité.
Sur les réseaux sociaux, je peux lire que les gens partagent tout, qu'ils sont allés aux toilettes, que leur chien louche et que maintenant ils mangent un Apfelstrudel.
Grâce au smartphone, on peut partager de plus en plus sur le net des détails les plus intimes à sa consommation de pâtisserie autrichienne. L'habitante de l'abribus se demande quelles conséquences ces nouvelles pratiques peuvent avoir pour ceux qui se dévoilent ainsi. Du coup, elle a décidé de s'exposer elle aussi.
On pourrait presque appeler cet endroit un Facebook vivant. Je m'expose, mais en allant plus loin, je crois, puisque les gens peuvent vraiment rentrer en personne. Ça ne reste pas au stade superficiel d'un écran d'ordinateur.
L'artiste a ainsi fait la connaissance de personnes sans domicile, ses nouveaux voisins. Elle espère que son installation attirera l'attention sur la hausse des loyers dans la capitale autrichienne, qui rapporte énormément aux grands propriétaires, mais laisse beaucoup de nécessiteux sur le carreau. D'ailleurs, Barbara Ungepflegt a appelé son œuvre Airbnb, en référence à une célèbre plateforme de sous-location de logements privés pour le tourisme, qui menace, selon elle, de vider les centres-villes de toute vie et d'abolir les espaces privés. Dans sa version à elle, PNP veut dire pause and peek, c'est-à-dire faire une pause et jeter un coup d'œil à l'intérieur. Quant au mot air, il fait sans doute référence aux nombreux courants d'air qui traversent ce logement bien modeste.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition Accent d'Europe, à retrouver demain dès 12h40 en universel.